livre des livres, le podcast qui va vous faire aimer la littérature sous toutes ses formes. Chers amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Un Livre, des Livres. Un Livre, des Livres, le seul podcast consacré à tous les styles de lecture dont le nom ne passe pas du tout en audio, alors que sur le papier, l'idée était quand même vachement bien. Les grandes vacances sont là, alors du coup, tiens, si on changeait un petit peu le fond musical pour autre chose. Ah ouais, ça c'est pas mal. Donc les grandes vacances sont là, et je vais vous livrer quelques lectures bien savoureuses à déguster sans modération, que ce soit sur la plage, chez soi, enfin qu'importe là où vous êtes en vacances ou si vous travaillez encore le soir, histoire de se reposer un peu et de partir, de s'évader mentalement grâce à des histoires rondement bien menées. Alors, au programme de ce podcast, trois livres de styles différents, Danse, Néomé, Danse de Corinne Valade, publié chez Debord Éditions, Georges Sand mène l'enquête de Delphine Billien, une belle découverte, et Les Noyers des Bords de Marne de Philippe Grandcoin, là encore chez Debord, donc c'est une saga des enquêtes d'Hippolyte Salvignac, c'est le dernier opus en date, et il est vraiment excellent. Allez, c'est parti! Sorti en février dernier dans la collection Terre d'écriture, chez Debord, le dernier roman de Corinne Valade, Danse, Néomé, Danse, est un roman qui ne peut pas laisser indifférent de par le style narratif, mais également par les différentes thématiques abordées par l'auteur. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, et notamment les saisons précédentes chez un autre hébergeur, ce n'est pas la première fois que j'ai à vous partager mon impression sur un roman de Corinne. Cet artiste multiple qui fut conférencière, mais également très engagée dans la vie associative et culturelle, vu qu'elle anime des théâtres de marionnettes, elle continue à animer des conférences, elle se déplace énormément pour rencontrer les gens, et je reviendrai là-dessus parce que ce détail est très important pour comprendre sa manière d'écrire, c'est quelqu'un qui est passionné et qui va toujours offrir des réflexions à ses lecteurs par-delà du coup la première idée que ceux-ci peuvent se faire en regardant ne serait-ce que la couverture ou en lisant le quatrième de couverture comme celui que j'ai dans les mains. Avant de commencer l'analyse, je tiens à remercier Corinne de la petite dédicace qu'elle m'a faite dans cet ouvrage qui m'a beaucoup amusé. Alors je vais vous la lire pour Johan. Et non, ceci n'est pas un manga, mais il y a aussi des super-héros. Je sais que la ségrégation est un sujet qui t'intéresse. J'espère que ce roman trouvera une résonance en toi, bien amicalement, Corinne. Eh ben oui, Corinne, vous avez absolument raison. Il n'y a pas que les mangas dans la vie.
Il y a le sexe aussi.
Wow, qu'est-ce que ça fait là, ça? D'habitude, c'est dans ma tête. Bon, allez, vas-y, Francky, c'est bon. Oui, bon, certes, il est grand temps que je prenne des vacances, moi aussi, mes blagues sont de plus en plus nulles. Alors, revenons, si vous voulez bien, au roman Danse, Néomé, Danse. Le 6 juin 44, des centaines d'Afro-Américains débarquent sur les plages de Normandie. Willy est un de ces hommes. De Berlin à La Rochelle, puis au camp américain d'Aigrefeuille d'Aunis, il découvre des villes exsangues où tout est à reconstruire. Pianiste hors pair, la musique est son refuge. Maurice est creusois, maquisard. Il est enrôlé au 78e régiment d'infanterie. En 1945, il quitte sa région pour libérer le dernier bastion allemand de La Rochelle. C'est avec soulagement qu'il laisse derrière lui la ferme familiale. Rochelaise, Néomé est sage-femme. Prise au piège dans la poche de Royan en 1945, elle est une des rares survivantes du bombardement allié. De retour à La Rochelle, elle semble avoir perdu pied et tous l'appellent la Tabaillot, la folle. L'arrivée massive de milliers d'Américains sur le port de la Palisse va bousculer son mode de vie, tout comme celui des Charentais. Alors il serait malaisé de penser que ce roman est un roman régional uniquement pour faire plaisir aux Rochelais. Pas du tout. Ça, c'est mal connaître Corinne Valade, c'est-à-dire qu'elle a planté son décor dans cette zone de la France. Elle change assez régulièrement en fait de région ou d'espace géographique pour transposer son lectorat dans son histoire et qu'en fonction de celle-ci, il faut donc bouger un petit peu. C'est l'un des points forts du coup de ce roman, c'est qu'il va montrer au lecteur une page d'histoire qui est sacrément méconnue dans un lieu très précis. En effet, les débuts de la reconstruction de la France, scolairement parlant, c'est jamais le truc dont on parle. Ou alors on va juste dire comme ça, la France est reconstruite et après on passe rapidement à autre chose. Mais ce qui s'est passé vraiment entre 1945, 1946, 1947, 48 jusqu'au début de la guerre froide, bah ça c'est pas vraiment connu du grand public. Il y a beaucoup de sociétés d'amateurs d'histoire locale qui, elles, du coup, savent ce qui s'est passé, travaillent beaucoup dessus, ont fait un gros travail de collecte et également de mémoire par rapport au lieu dans lequel ils vivent. Et ici, dans ce roman, Danse Néo-Médance, ben Corinne Valade, elle donne ces informations. Il y a un énorme travail de recherche sur ce qu'a été Aigrefeuille-Denis, sur ce qu'a été La Rochelle, avec ses années d'occupation américaine. Alors attention, j'emploie volontairement l'expression « occupation américaine ». C'est le même cas qu'au Japon. On peut utiliser l'expression avec, bien sûr, historiquement parlant, il y a quand même un petit degré de décalage entre l'occupation à La Rochelle et l'occupation de l'archipel nippon. Mais on est bien sur cet ordre d'idées-là. Et du coup, ce contexte historique et géopolitique va être sacrément important pour comprendre la mentalité de plusieurs des protagonistes du roman. Parce que certains vont trouver que les Américains sont des mecs super cool et qui, heureusement qu'ils sont là. Alors non, rassurez-vous, je suis très fatigué, mais je vais pas vous mettre du Michel Sardou, manquerait plus que ça. Et en plus, on va avoir ceux qui sont contre. Hein. On est en pleine logique de la guerre froide, on va avoir des membres de la famille de Néomé qui, eux, seront farouchement hostiles à la présence des Américains, comme l'ont été beaucoup de Français, notamment ceux qui sont très proches du PCF, le Parti communiste français. Vous allez me dire, mais Johan, tu nous parles tout le temps d'histoire, arrête de penser au boulot. Certes, certes, alors c'est pas un roman historique non plus. Et c'est ça que j'aime bien chez Corinne, c'est qu'elle arrive à jouer avec les frontières de genre dans la littérature. Souvent, lorsque vous achetez un roman dans une bonne librairie, comme moi, on m'a tout lu, vous allez... Oh, placement de produit. Vous allez chercher dans un rayonnage, soit c'est par ordre alphabétique, ou alors c'est classé par genre, hein, polar, SF, fantasy, etc., etc. Là, du coup, celui-ci, pour le classer, je souhaite bon courage d'avance au libraire, parce que c'est pas un roman historique. Certes, ça se passe entre 1944 et 1967 de mémoire, mais c'est autre chose. Il y a d'autres thèmes qui sont développés par Corinne. Alors je vous dis, c'est quelqu'un qui aime beaucoup bouger en introduction de cette intervention. Donc oui, elle va se déplacer, elle va rencontrer, elle va chercher le contexte, elle va s'imprégner surtout. Elle s'imprègne de l'ambiance des lieux et elle le retranscrit dans le roman. Et ça, je trouve ça sacrément impressionnant. Et ce qui fait que ça permet de jouer avec les frontières des genres littéraires. Parce que là, en fait, les thématiques les plus importantes du roman, ce sont les liens sociaux, la perception de l'autre. C'est le cas pour Néomé. Alors, Tabayo, dans le Poitou-Charentes, c'est une expression qu'on entend assez souvent. C'est pas familier, mais en tout cas, c'est pas très flatteur de traiter quelqu'un de Tabayo. En plus, elle arrive à reprendre du patois local dans le roman. Très peu, je vous rassure, mais à bon escient, donc ça tombe toujours très très bien. Et on a cette Néomé qui est perçue comme une espèce de gentille foldingue par beaucoup de gens. Bon, elle subit juste un énorme choc post-traumatique parce que l'action de destruction de Royan par les alliés, qui est extrêmement bien décrite dans le roman, elle la laisse avec des séquelles énormes. Elle perd sa sœur qui était en train d'accoucher, c'est pour ça qu'elle était dans cette ville. C'est une des rares survivantes, donc quand les soldats américains tombent dessus, elle la voit danser, parler toute seule sur la plage. Voilà, c'est la réputation est faite qu'elle serait pas toute seule dans sa tête. Mais là, c'est autre, voilà, elle est victime de la guerre de manière directe, dans sa chair, dans ses sentiments aussi, elle va devoir se reconstruire. Donc la notion de résilience est également présente dans le roman, à titre individuel pour Néomé, pour d'autres personnages aussi. C'est le cas de Willy, le soldat américain, qui lui doit en plus se battre contre la ségrégation dans l'armée américaine et d'autant plus dans la société civile américaine. Donc là aussi, résilience. Résilience également des pays, résilience de la France par le prisme Rochelet. Comment est-ce que La Rochelle va se reconstruire avec cette présence alliée? Donc voilà, on a des thématiques riches qui s'entrecroisent dans ce roman. Au niveau des autres également thèmes présents, la famille. La famille, c'est quelque chose qui est très très fort dans l'écriture de Corinne Valade. On l'a dans Le Jardinier du Fort, dans L'Arbre des Oublis. Alors si vous avez encore du temps pour lire, lisez L'Arbre des Oublis. Ce roman m'a mis une superbe claque. D'ailleurs, je l'ai utilisé en classe. Mais d'ailleurs, lisez tous les romans de Corinne Valade de manière générale. D'accord, je ne veux pas dire qu'il y en a qui sont plus faibles que d'autres en termes d'émotion. Non, ils sont tous très bons avec des thématiques et des lieux différents, mais parfois avec des thématiques qu'on retrouve identiques à chaque roman, notamment celle des liens familiaux, du regard sur l'autre, qu'elle arrive à transposer un peu partout, parce que c'est quelque chose qui lui tient très très à cœur dans sa manière d'être. En fait, c'est comme ça qu'elle est. Et ici, bah, cette manière de regarder l'autre, bah, c'est la manière de regarder Naomi. Est-ce qu'elle est vraiment folle ou pas? Comment va-t-elle se reconstruire? C'est la manière de regarder des soldats américains. C'est la manière de regarder des soldats américains qui sont pas blancs aussi, hein, que ce soit par les Français, mais également par les autres soldats américains. Donc, on a vraiment tout ça. Et il y a un rythme. Il y a un rythme dans cette écriture. J'en bafouille, donc moi aussi je perds la notion du rythme. Et ce rythme qui est lié du coup à la musique que joue Willy, parce que c'est un bon jazzman. Et pour ceux qui ont Louis Finn, il y a une petite sélection musicale qui est proposée par l'autrice au début du livre. Il y a un petit QR code qu'on peut flasher. Et vous avez droit à une playlist de 15 titres. Alors j'ai fait l'expérience de lire avec la playlist, c'est plutôt sympa. Alors il y a de plus en plus d'auteurs qui le font, c'est plutôt rigolo. Et là, ça colle super bien avec l'ambiance qui est dans le livre. Alors, chaque chapitre va être du point de vue d'un des personnages, soit Willy, soit Naomi. Ce qui fait, et forcément avec des chapitres où ça va se recroiser, avec le point de vue du coup de chacun des deux, c'est très très intéressant. C'est un livre en fait, lorsqu'on commence, on peut pas s'arrêter, parce qu'on est vraiment pris dans le tourbillon de l'histoire, mais à l'échelle du prisme individuel, c'est un peu ce que l'école italienne de la nouvelle histoire préconisait avec la microstoria. Donc on est un peu dans cette logique-là. Alors même si j'insiste bien que ce n'est pas un roman historique pur jus, d'accord, c'est vraiment une belle histoire sur les êtres humains. C'est une histoire sur la reconstruction multiple, à multiples échelles, pardon. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus prenant qu'un simple roman historique, prenant dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que voilà, c'est un roman puissant, n'ayons pas peur des mots, c'est un roman qui est extrêmement puissant, plaisant, et qui transporte et qui parfois donne de l'espoir, parfois fait frémir aussi. C'est un livre dans lequel on apprend beaucoup aussi, hein. J'ai énormément appris sur la situation de La Rochelle à l'époque et sur la manière du coup dont se passait l'occupation, et surtout un texte qui est formidablement bien écrit, parce que la plume de Corinne Valade est d'une fluidité. Souvent, les romans historiques sont très bons. Il y a de très très bons auteurs de romans historiques, il y a de très très bons auteurs de romans tout court. Hein. On n'est pas là pour parler de ceux qu'on n'aime pas, au contraire, je suis là pour défendre mes coups de cœur littéraires. Mais certains ont un style plus haché, certains ont un style même parfois taiseux, comme Frank Willis. Chaque style est bon en fait. Moi, ce que j'aime chez Corinne Valade, c'est cette fluidité dans le texte. Ça coule comme un petit cours d'eau en fait, c'est vraiment fluide et c'est très très appréciable à lire. Donc c'est une belle découverte que ce roman Danse Naomi Danse. Ça honnêtement, ça vaut vraiment le coup que vous le disiez. Alors j'ai pas voulu développer davantage l'histoire dans mon compte rendu pour pas trop divulgâcher, j'ai déjà donné 2-3 spoils un peu plus tôt et vous m'en voyez désolé. Mais vraiment, si vous êtes curieux, si vous cherchez un bon roman sur les thématiques de la famille, sur les thématiques de la résilience, avec un contexte qui change un petit peu de ce qu'on peut lire dans la fiction actuelle, où c'est plutôt très contemporain, et ben foncez sur Danse Naomi Danse, vous serez pas déçus, foncez également sur la petite playlist qui est proposée. Parce qu'on a vraiment un livre écrit avec une justesse sur l'âme humaine, une justesse sur le respect des autres. C'est très très beau. Et j'ai hâte de lire le prochain roman de Corinne Valade. Donc merci à vous Corinne, merci également à toute l'équipe de Deboré et à Edouard qui se reconnaîtra. Allez, on change un petit peu de style et d'époque avec George Sand mène l'enquête, le premier tome d'une nouvelle série policière assez intéressante d'ailleurs, signée Delphine Bilien, et c'est paru au Moisson Noir. Alors c'est assez rigolo parce que depuis quelques années on a une espèce de floraison d'une mode d'enquête policière menée par des auteurs classiques ou en tout cas super connus. C'est le cas des sœurs Bronte chez Bella Ellis, de Jane Austen par Julia Golding et de l'immense Voltaire par mon petit chouchou Frédéric Lenormand. Alors ici, Delphine Bilien a fait fort, elle a pris George Sand, qui est pas forcément l'autrice classique la plus connue du grand public, enfin le nom on le connaît, et chez beaucoup de blogueurs avec qui j'ai pu échanger, on s'est rendu compte que notre culture sur George Sand, elle est sacrément moindre que certains de ses confrères plutôt masculins. Vous voyez, le lapsus est intéressant. Le nom vous dit quelque chose, mais du coup, son travail est beaucoup moins connu, ce qui est bien dommage. En tout cas, moi, ça m'a donné l'envie de replonger dans le travail de Madame Sand. Alors ici, de quoi ça parle? On est en 1868, Aurore Dupin, alias George Sand, se retrouve au cœur d'un scandale, la mort suspecte de l'éditeur Roger Balakin. Cette disparition tragique plonge le monde des lettres dans la stupéfaction. George Sand rend visite à l'une de ses amies en Anjou. L'occasion pour elle d'assister à la remise du prix littéraire à venir, dont le favori est un certain Antoine Duménil, étoile montante de l'écriture. Or, la mort suspecte du très respecté éditeur, Roger Balanquin, pourrait remettre en question cette récompense. L'auteur est en effet le dernier à avoir vu la victime vivante. Jeanne Tussaud, une jeune domestique, sollicite l'aide d'Aurore Dupin et finit par la convaincre que de terribles secrets lient la victime à Antoine Duménil et son épouse. Diffamation ou intuition ? La réalité pourrait bien dépasser les romans et plonger la célèbre écrivaine dans une histoire digne de ses intrigues. Et ben, il y a du bon dans ce premier roman de George Sand, Mène l'enquête. Alors, je pense pas que ce soit un effet de mode, mais bon, là, c'était assez cocasse de souligner le fait qu'il y a maintenant, en plus des grands enquêteurs de la littérature, les auteurs deviennent également des enquêteurs, donc c'est plutôt drôle. Il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont intéressé dans ce roman. Le premier, ben déjà, mettre une femme enquêtrice, c'est intéressant. George Sand, je vous l'expliquais, hein, d'accord, c'est pas l'autrice classique la plus connue, donc ça permet du coup de s'intéresser à son travail. Je regrette vraiment de manquer de référence sur cette personnalité tout de même. La première chose qui m'a plu, c'est le rythme. Le rythme présent dans ce roman qui change par rapport au roman d'enquête. C'est là, on est sur un rythme plus lent. Très 19e siècle, je dirais, mais dans la haute société. Voilà, l'enquête se pose avec une certaine lenteur. Ce qui fait que ça peut déstabiliser certains lecteurs qui sont habitués au ce qu'on appelle au roman historique, enfin aux enquêtes historiques plutôt, où c'est très très rythmé, ça va très vite, il y a beaucoup de rebondissements, de twists, mais également de fausses pistes. Là ici c'est pas le cas. Alors là aussi les fausses pistes, c'est quelque chose qui plaît ou déplaît complètement. C'est très clivant. Ici il y a quasiment pas de fausses pistes. L'autrice a fait le choix de suivre l'enquête sur un espèce de fil comme on le déroulerait tout doucement pour éviter des nœuds, mais il n'y a pas de fausses pistes. On suit le dénouement. Pourquoi pas, hein. C'est tout à son honneur. En tout cas, ça permet du coup de coller à ce rythme plutôt calme. Ce qui peut perturber certains lecteurs, c'est le fait que même si George Sand est indiqué comme étant l'enquêtrice, c'est pas vraiment elle en fait dans le roman qui va mener l'enquête, elle va aider. Il y a un autre personnage avec qui elle s'associe qui lui est vraiment l'enquêteur, mais c'est pas déconnant parce que on est sur une George Sand vieillissante en fait en 1868, vieillissante et plutôt dramatique, ce qui fait qu'on peut pas caser ce bouquin dans le genre du cozy mystery, hein, d'accord, parce que dans ce genre là où on a souvent des duos d'enquêteurs avec un peu d'humour, plein de fausses pistes, là non, on est plutôt dramatique, hein, elle est dans ses souvenirs, elle a été traumatisée par un deuil d'enfant, et voilà, on sent qu'elle, et puis elle le dit plusieurs fois, hein, qu'elle se sent un petit peu âgée par rapport aux personnes qu'elle côtoie. Donc là, le fait qu'elle est invitée chez une amie, c'est histoire de faire une pause parce que sa vie privée, elle n'est pas terrible, elle se sent pas bien. Donc on n'est pas sur un enquêteur qui est au 100% de sa forme. Et puis c'est une femme au 19e siècle, hein, la boîte George Sand, voilà, il y a quand même des limites machistes très très puissantes qui vont s'instaurer dans cette période, dans cette seconde partie du 19e siècle qui plus est. C'est en ça que c'est pas déconnant, parce que j'ai lu des critiques sur ce bouquin qui disaient que ça plaisait pas le fait que, en gros, on met George Sand sur la couverture et que finalement c'est moyen. Non, c'est pas déconnant, au contraire, historiquement c'est juste, hein. Moi, le petit défaut que je verrais dans le bouquin, c'est qu'il y a le côté contexte historique n'est pas assez nourri. Bon, ça c'est sûrement moi, hein, c'est un défaut de formation. Ça aurait peut-être donné un peu plus de densité au récit, mais c'est vraiment le seul truc qui, voilà, quand on lit, quand on est habitué à ce genre de genre littéraire, bah voilà, on se dit ça, j'aurais bien voulu apprendre pourquoi. Par contre, le fait de placer ça en Anjou, bon, on est sur un éditeur et une autrice qui tourne un petit peu dans cette région, bah, c'est intéressant aussi. Ça permet de voir autre chose. Puis on est dans la haute société, avec les liens avec la domesticité. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Ça, on est bien dans cette nouvelle classe sociale dominante qui a ses codes et qui les impose, avec une société qui n'est pas forcément toujours en adéquation avec ceci. Mais voilà, ça tient la route, c'est un roman qui tient la route, mais c'est un roman qui m'a vraiment plu. Il m'a vraiment plu parce qu'il a plein de qualités, N'oublions pas également que c'est le premier tome de ce que j'espère être une série à venir, donc faut poser les bases aussi, c'est pas évident. Je pense que la plupart des auteurs qui se frottent à ce genre littéraire le savent et marchent sur des œufs lorsqu'ils écrivent leur premier ouvrage. Eux aussi en espérant qu'il y aura des suites, parce qu'ils sont en tête. Voilà, on a un bon bouquin qui est plaisant, qui fait bien passer le temps, qu'on savoure tranquillement, parce qu'on rentre dans ce rythme en plus quand on le lit. qui m'a un peu déstabilisé au départ, mais après on prend le pli et puis on est bien en fait. L'enquête elle tient, même s'il n'y a pas trop de rebondissements, elle tient. On a des personnages secondaires qui sont intéressants. La petite Tussaud là, en partie. Le Duménil, moi qui m'a bien fait marrer parce que déjà, j'ai un ami homonyme. Et en plus, il y a un côté Beng BD qui m'a trop fait marrer. Vraiment, c'est le côté dandy, mais pas dandy chic ou le dandy à la Wild, mais plutôt le dandy affreux connard, si vous me permettez l'expression, celui qu'on voudrait, qu'on a envie de baffer, qui est insupportable, qui s'écoute parler. Là, ce personnage est extrêmement bien réussi. Alors, peut-être que... j'ai cité un auteur, mais bon, peut-être que c'est pas lui que Delphine Bignon avait en tête, mais voilà, il y a malheureusement d'autres pseudo-artistes qui ont ce melon-là, mais le personnage, en tout cas, est assez savoureux, et c'est un beau salopard, en tout cas, vous verrez dans l'enquête. Donc je souhaite longue vie à cette nouvelle série. George Sand mène l'enquête. Je vous invite vraiment à le découvrir. Et je tiens à remercier très très fort ma petite femme qui m'a offert ce roman en fait. Elle m'a dit tiens, il y a un truc très bête, chers auditeurs, vous le savez sûrement, mais la couverture, ça fait vachement d'effet. Et la couverture de George Sand mène l'enquête, elle est super belle. Elle est très très jolie. On a une femme en arrière-plan, vêtue de noir, avec des gants en dentelle. C'est une tenue très typique de cette seconde partie du 19e siècle, sur un fond noir qui est très travaillé. Là, ils ont vraiment fait ça bien au Moisson Noir. C'est vraiment très très joli. Papier de belle qualité aussi. Donc, le roman, quand elle l'a vu, elle trouvait beau. Comme on est spécialiste un petit peu tous les deux du 19e siècle, on s'est dit tiens, pourquoi pas. Donc, joli cadeau, belle attention et puis bonne découverte. Donc, je vous invite également, vous aussi, à vous plonger dans les aventures de George Sand en Anjou pour déjouer et savoir qui a tué l'éditeur. Pour terminer ce nouveau numéro d'Un livre des livres, Un livre des livres, j'aimerais évoquer Les Noyers des bords de Marne de Philippe Grandcoing, qui est le sixième opus des enquêtes d'Hippolyte Salvignac, un antiquaire qui, par la force des choses, est devenu un enquêteur un peu obscur sous la coupe réglée de Georges Clémenceau. Alors ça fait longtemps que je suis les aventures d'Hippolyte Salvignac, j'ai la chance d'ailleurs d'avoir pu découvrir à sa sortie le tome 1, et de chroniquer les suivants pour d'autres émissions de radio, et c'est toujours un grand plaisir de retrouver des personnages qui sont devenus de bons amis au fil du temps. Et il n'y a pas que cette raison qui me fait apprécier ce sixième tome, intitulé, comme je vous le disais, Les Noyers des bords de Marne. Alors l'action se situe au printemps 1911. Un avion s'écrase lors d'une démonstration et tue accidentellement, peut-être, le ministre de la guerre. Une crise diplomatique majeure entre la France et l'Allemagne, à propos du Maroc, une malle contenant un cadavre sans tête repêché dans la Marne, un marchand juif qui disparaît mystérieusement, Hippolyte Salvignac et Jules Lerouet n'ont décidément pas le temps de s'ennuyer en ce printemps 1911. Aussi improbable que cela puisse paraître, toutes ces affaires semblent être reliées entre elles et les deux hommes se retrouvent plongés au cœur d'intrigues politiques nationales et internationales. Pour cette sixième enquête, l'antiquaire retiré des affaires et l'inspecteur de la sûreté parisienne, en délicatesse avec sa hiérarchie, explorent les coulisses d'une belle époque où combat, trafic et assassinat sont légion. Avec ce nouveau volume des enquêtes d'Hippolyte Salvignac, l'historien et romancier Philippe Grandcoing, fin connaisseur de la période, poursuit l'exploration de la France des années 1900 et nous fait découvrir l'incroyable richesse de cette époque à la fois proche et déjà si éloignée de nous. Alors voici le résumé qui se trouve en quatrième de couverture du roman. Alors j'ai évoqué les couvertures tout à l'heure. Là aussi, à chaque fois, nous avons droit à des couvertures hyper léchées dans cette collection Vent d'Histoire proposée par Deboré, dirigée par Anthony Fraud. En guise de couverture, nous avons un morceau d'Élégante sur les quais de Seine de Victor Gilbert, donc un tableau qui correspond très bien à la période et à l'ambiance voulue par Philippe Grandcoing. Alors Philippe Grandcoing, en effet, c'est un spécialiste des 19e et 20e siècles, et il a publié beaucoup d'ouvrages historiques et en tant que roman historique. On lui doit par exemple 8 volumes de la collection Les Grandes Affaires Criminelles, toujours chez Deboré, et cette fabuleuse saga d'Hippolyte Salvignac. Ce que j'apprécie particulièrement chez Philippe Grandcoing, c'est qu'il arrive à nous transporter dans le temps et déplacer le lecteur jusqu'à la belle époque grâce à une écriture dont la finesse n'a d'égal que la précision. Et ça, c'est super important. Nous l'avons évoqué précédemment, la précision dans la création du cadre narratif afin de densifier le récit, c'est primordial quand même dans la romance historique. Et force est de constater que cet auteur arrive à gagner davantage de roman en roman. Chaque roman se densifie davantage tout en trouvant le dosage parfait entre le cadrage, l'insertion de personnages fictifs dans un milieu historique réel et le divertissement. Parce que ce n'est pas, le but, ce n'est pas de faire un documentaire déguisé. On le voit souvent dans de la bande dessinée ou également dans certains romans où là, il y a tellement de détails, tellement d'informations que parfois on peut en perdre le fil de l'intrigue policière qu'on est en train de suivre. Ici, c'est pas du tout le cas, j'insiste bien dessus. Le dosage est excellent, il est parfait. Et on est vraiment en train de suivre une enquête palpitante avec des rebondissements, des fausses pistes, des twists, plusieurs personnages qui s'entrecroisent. Et là, ici, l'entrecroisement, il est géopolitique. C'est voulu, ça sert très bien l'histoire. Et ici, on a vraiment l'entrecroisement de différentes communautés en France, à Paris en particulier, avec des juifs, mais également avec des migrants libanais. On en apprend un petit peu aussi sur l'Empire ottoman, sur la manière dont cet État multiethnique est un petit peu géré. On apprend pas mal d'anecdotes dessus. Par exemple, en plus de cela, il y a également l'évocation du passé récent des Juifs d'Alexandrie par le biais de certains personnages. Je pense au père de Madame Luzzati. Le Liban, je l'évoquais aussi. L'Égypte qui s'ouvre à l'Europe et c'est mal vu là-bas. Donc ça crée des tensions dans cette partie du monde. C'est bien amené, c'est super bien amené de la part de l'auteur, parce que forcément ça sert le récit, ça sert l'intrigue, mais le lecteur il apprend également énormément de choses, ça donne envie de se renseigner, ou tout simplement on a l'impression de sortir de la lecture beaucoup moins bête que quand on l'a commencé, donc c'est quand même vraiment génial. Et de temps en temps il y a des petites pépites d'humour, un peu cyniques et grinçantes, en fonction des personnages qui vont les évoquer, et qui sont plutôt bien placés, bien amusants. Par exemple il y a dans le portrait de Caio, qui est un des personnages qu'on retrouve, et en particulier à la page 46 du roman, il y a une petite allusion au président actuel qui n'est pas sans me déplaire, j'avoue. C'est très très sympathique. Il y a cette alternance entre petits moments d'humour, petits clins d'œil à l'actualité masquée. On a tous ces événements qu'on apprend. Alors, on a beau se renseigner, on a beau avoir des connaissances avant en amont, c'est toujours plaisant de les voir se réactiver et comment la fiction peut réactiver ses connaissances ou donner envie aux lecteurs curieux, et aux lectrices curieuses bien sûr, d'aller plus loin et d'aller se renseigner. Moi par exemple, après la lecture de ce roman, je suis allé me chercher un petit peu des informations sur celui qui est surnommé le Sultan Rouge, hein, Abdelhamid II. C'était très passionnant à décortiquer et du coup j'en suis sorti grandi de cette lecture. Bien sûr, si vous n'êtes pas amateur d'histoire, c'est un peu dommage pour vous, vous ratez quelque chose. Après, vous pouvez lire un très bon polar, dans la romance historique, c'est souvent ça. Mais il y a quand même cette romance, ce type de polar qui est vraiment fait pour les aficionados de cette discipline des sciences humaines, c'est quand même pas rien. Et Philippe Grandcoing maîtrise à la perfection. Sa finesse d'écriture, elle est particulièrement brillante. C'est un livre, en fait, qui a les avantages de la finesse historique dans son analyse, dans sa vulgarisation aussi, parce qu'il fait passer énormément d'informations sans le ton doctoral et professoral. Et surtout, c'est la bonne vulgarisation, bien sûr, dans un texte qui est très fluide à lire, qui est une enquête passionnante, bien construite, avec l'entrecroisement de personnages fictifs plausibles. C'est le cas d'Hippolyte Salvignac, hein, qui ici maintenant est devenu bien rentier, qui ne vit plus par la gestion de sa boutique d'antiquité qu'il a confiée à un ami. Voilà, les personnages ont évolué, ils croisent des personnages historiques, hein, Clémenceau, il est encore plus brillant que d'habitude, et il est superbement incarné, hein, lorsqu'il dit « Je suis un alchimiste dans mon genre, je peux transformer le plomb de vos informations en or du scandale politique. » Mais quelle pépite! Alors on sait que Clémenceau était l'un des ministres, l'une des bêtes politiques, n'ayant pas peur du mot, qui sont connus pour être on peut dire le roi de la punchline, il y a Napoléon qui est pas mal, De Gaulle qui était pas mal dans son genre, mais c'est vrai que Clémenceau, voilà, c'est ça fusait, quoi. Et là, on retrouve ce Clémenceau un peu pas amoindri dans le roman, mais qui essaye de revenir, qui est toujours dans l'ombre pour tirer les ficelles, pour essayer de se placer, pour essayer de mettre la main sur des personnalités intéressantes. On voit par exemple ce qui arrive à Jules Le Rouet dans le roman. Les personnages évoluent également dans leur vie privée, dans leurs relations amicales. C'est l'entrecroisement qui est vraiment particulièrement réussi dans ce roman. Alors chaque roman d'Hippolyte Salvignac, je le savoure, c'est un véritable petit bonbon qui me ramène au 19e siècle. Je dis ça comme si je l'avais connu. Chaque roman est vraiment de mieux en mieux, et là, Les Noyers des Bords de Marne, c'est quand même celui que je préfère. J'ai hâte de lire le prochain. J'imagine bien que Philippe Grandcoing a déjà commencé à l'écrire, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y replonger dedans, parce que c'est vraiment bien fait. Si le 19e siècle, si la Belle Époque en particulier vous intéresse, si vous aimez bien les polars, vous savez que vous avez toute cette saga des enquêtes d'Hippolyte Salvignac, elle est faite pour vous. Vous allez chez votre libraire, ou vous allez sur le site de Doboré, vous les commandez, vous débrouillez, hein, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais vous mettez la main dessus et vous me lisez ça. C'est une obligation. C'est une obligation. Pour moi, cette série, c'est vraiment l'une des meilleures séries sur le 19e siècle. en France, écrit par un auteur français, en plus francophone. Donc on a cette chance-là. Donc foncez dessus. Elle vaut vraiment le coup. C'est une excellente série. Moi, je la suis, je vous l'ai dit, depuis le début. Je n'en rate pas une miette. Voilà, chaque cadre change avec les personnages, forcément. On en apprend énormément et c'est toujours plaisant parce que même si c'est un ouvrage qui est, si je le reprends là, dans les mains, on dépasse un peu les 300 pages, ça se lit vite. C'est ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avant que je me laisse emporter par l'émotion. Mais cette finesse artistique, cette finesse de l'écriture, cette exigence de l'historien et les techniques du page-turner. Alors c'est pas une honte de traiter un bouquin de Page Turner, hein. Ça veut pas dire que c'est mal écrit, non c'est pas du tout ce que je veux dire. Remontez quelques minutes en arrière dans le podcast et vous allez voir que j'ai dit l'inverse. Quand un livre est passionnant, bien écrit, que c'est rythmé comme il faut, bah les pages on les bouffe, on les lit quoi, ça va vite et puis après quand on ferme le livre, ça y est, il est fini, j'ai passé un agréable moment et c'est ça que je veux dire lorsque ce livre a tous les atouts du Page Turner. C'est exactement ça, ce livre on le prend, on passe un bon moment, on est transporté dans le temps, on a une intrigue qui est géniale. On a des personnages qui le sont tout autant. C'est fluide, c'est bien écrit. Et voilà. Donc si vous cherchez de quoi vous occuper pour une bonne soirée ou deux soirées, tout dépend de votre vitesse de lecture. Alors si vous faites comme moi, c'est-à-dire vous commencez le livre en disant « Oui, t'inquiète pas, plus qu'un chapitre. » Et vous le finissez dans une autre pièce de la maison en ayant les yeux un peu rougis parce qu'il est très tôt le matin, mais que vous avez fini le bouquin. On est vraiment sur le livre idéal. Je vous rappelle le titre « Les noyés des bords de Marne ». Une enquête d'Hippolyte Salvignac signée Philippe Grandcoin, paru dans la collection Vent d'Histoire chez Deboré. Chers amis, il est temps maintenant de se dire au revoir. J'espère que ces presque 30 minutes de podcast ne vous auront pas assommé. Mais en tout cas, je vous rappelle les trois titres qu'il faut lire pour passer un bon début d'été. Si vous l'écoutez tout de suite ou si vous l'écoutez beaucoup plus tard ce podcast, pour passer un bon moment de lecture, nous avons Danse Néomédance de Corinne Valade chez Deboré. Nous avons Georges Sand, l'enquête de Delphine Bilien chez Les Moissons Noirs. Et Les Noyés des Bords de Marne de Philippe Grandcoin chez Deboré dans la collection Vent d'Histoire. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Un livre des livres, un livre des livres. Bonne lecture d'ici là.